Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Dans quelques instants, nous serons avec Laurent Gérard, mais tout de suite, à 8h40, la revue de presse avec Isabelle Choquet. Et ce matin, dans les journaux, Isabelle, des mythes, une enfant perdue et un chien qui boite.
Ça en dit long sur un homme, comment il vécu, comment il est mort et comment on l'enterre. La référence en la matière, bien sûr, c'est Victor Hugo. Le 1er juin 1885, sans TGV ni réseaux sociaux, 2 millions de personnes se retrouvent à Paris pour saluer la mémoire du grand homme. 600 000 personnes font la queue simplement pour toucher son cercueil exposé sous l'Arc de Triomphe. Johnny et Victor Hugo n'auraient pas franchement osé la comparaison et pourtant, ils ont ceci en commun. Ils sont les seuls à avoir eu les honneurs des Champs-Élysées. Mais pour Hugo, l'hommage est national et s'achève au Panthéon. Depuis, d'autres funérailles ont marqué la France. Le Huffington Post nous les fait revivre en images. Ferveur populaire en 63 pour Édith Piaf, emportée par la foule forcément. Mais le gouvernement lui refuse un hommage officiel en raison de sa vie personnelle dissolue, je cite. La foule aussi pour Josephine Baker, 2 ans plus tard. Obsèque nationale cette fois pour saluer ses engagements. Et puis en 70 pour De Gaulle, rien. Ni hommage national, ni fanfare. Le général a refusé la descente des Champs-Élysées. La ville de Paris organise tout de même une marche monstre de Concorde à l'étoile. Et puis il y a, bien sûr, une journée de deuil national. En 76, rien d'officiel pour Jean Gabin, mais une bousculade sans nom et des admirateurs qui s'évanouissent, comme pour Clo-Clo en 78, Coluche en 86 ou Gainsbourg en 91. Là, les fans graveront leur chagrin sur la façade de sa maison. Deuil national pour Mitterrand en 96. Des milliers de personnes suivent la retransmission sur écran géant de la messe à Notre-Dame qui déborde en 2007 pour l'adieu à l'abbé Pierre. Plus de 5000 personnes assistent à la messe. Hommage de la nation pour le fondateur d'Emmaüs, comme pour Jean d'Ormesson aujourd'hui aux Invalides.
Alors ce n'est pourtant pas un jour triste et c'est même une journée d'espoir puisque c'est aujourd'hui le lancement du Téléthon.
Et derrière les chiffres qui défilent sur le compteur des dons, il y a des hommes, des femmes qui cherchent et qui trouvent parfois. C'est ainsi que dans quelques semaines seront dévoilés les résultats d'un essai prometteur de thérapie génique. Essai sur des enfants atteints d'une maladie musculaire rare et au nom barbare, comme souvent la myopathie myotubulaire. Moins d'une dizaine de cas par an, mais un enfant sur deux meurt avant 2 ans. Il n'existe aucun traitement. Aucun, pour l'instant. C'est une biologiste française qui porte ce projet. Anna Buche-Bello s'y consacre depuis 20 ans. Au départ, elle travaille sur des souris. Premier résultat encourageant, mais ensuite, comment avancer? Sur quel animal travailler? C'est alors que survient un hasard incroyable. La mère d'un enfant malade croise au Canada un chien qui boite. Et elle reconnaît les symptômes de la maladie. Une colonie de ce type de chien est montée aux États-Unis et tout bascule. Ce qui marchait un peu sur les souris devient spectaculaire sur les chiens. Avec une seule injection d'un gène sain, il remarche, il gambade même. Un essai sur les humains a débuté en septembre. 4 enfants sont traités aux États-Unis. Ce sont ces résultats qu'on attend. Anna Buche-Bello a la foi. Elle y croit comme une enfant, comme on peut croire au ciel. Rien ne sera simple, mais l'espoir est là, dit-elle. Belle histoire à lire dans Libération.
Alors il y a les enfants malades et les enfants perdus, comme cette jeune fille qui déambule entre Paris et la Bretagne.
C'est une Américaine aux allures de routarde, pantalon sarouel, sac à dos et ukulélé en bandoulière. Elle loge dans un Airbnb, ne sort quasiment que la nuit parce qu'elle aime les lumières de la ville. Personne ne sait qui elle est, et pourtant. Cette fille de 19 ans, à qui on donnerait volontiers un euro, est en fait l'héritière d'une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Elle s'appelle Paris Jackson et c'est la fille du roi de la pop. Depuis la mort de son père, elle a connu le pire, le harcèlement sur Internet, une agression sexuelle à 14 ans, la drogue, les tentatives de suicide. Aujourd'hui, elle se reconstruit en voyageant comme une anonyme, aux États-Unis ou en Europe. Paris Match l'a suivie en France. Quand elle ne déambule pas, Paris est actrice et mannequin. Elle a la peau blanche et les yeux bleus pervenches, mais elle le jure, elle est noire. Mon père me regardait dans les yeux, il me pointait du doigt, il me disait « Tu es noire, sois fière de tes racines ». Ce n'est sans doute pas le plus étrange dans son enfance, vécue à l'isolement avec ses 2 frères dans le domaine de Neverland. Ils n'en sortiront qu'en 2005, Paris avait alors 7 ans. Aujourd'hui, elle a repris les combats humanitaires de papa, la fondation Heal the World, et elle a pris aussi sa personnalité pour le meilleur et pour le pire. 50 tatouages sur son corps, dont 9 dédiés à son père. Elle vénère le dieu indien Ganesh, mais aussi des personnages de Walt Disney. Et elle est fascinée par la mort.
La mort, on y revient. Partons pour un dernier voyage.
En 92, lors d'une mission spatiale, la navette Columbia a dispersé dans l'espace une partie des cendres du créateur de Star Trek. Il a été le premier homme à être envoyé dans la stratosphère post-mortem. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, c'est à nouveau possible. Mais pour vous et moi, pour tout le monde, grâce à une petite société joliment baptisée Poussière d'étoiles que l'on découvre dans le magazine Society. À la manœuvre, un couple de Montpellier. Lui, il est conseiller funéraire. Il a eu l'idée un jour de récupérer des ballons-sondes de Météo France, ceux qu'on utilise normalement pour les tests atmosphériques. En 15 jours, un mois maximum, il vous organise des cérémonies de départ dans l'espace. Le temps de présenter le plan de vol, car oui, il en faut un, et il faut obtenir les autorisations. Le jour J, on réunit la famille. Les enfants sont très bienvenus. Après un moment de recueillement, les cendres sont transvasées de l'urne au ballon, puis on regarde vers le ciel et la personne part sans bruit. Elle disparaît progressivement. On ne voit pas la fin de son voyage car les cendres montent ainsi à 35 km avant que le ballon explose. C'est un deuil symbolique et poétique. Déjà une vingtaine de dispersions en 3 mois. Le voyage ne fait que commencer. C'est tout de même joli de quitter la Terre. En quittant la Terre, l'éternité dans l'infini, ça aurait peut-être plu à Jean Dau.
Ça aurait certainement plu à Jean Dau. C'était Isabelle Choquet.